Cyril Boucheron, vendredi 9 novembre au Théâtre National de Bretagne à Rennes, vous avez honoré le second rendez-vous du cycle de 7 rencontres qui se déroule toute la saison dans les murs du théâtre à l'aune du thème « Rencontrer l'histoire ». Contrairement à votre première intervention, celle de septembre, cette fois vous n'étiez pas seul sur scène, vous étiez accompagné de deux musiciens, Bruno Alaric, compositeur et guitariste, et Isabelle Courroy, joueuse de flûte cavale. C'est donc un spectacle inédit remontant au Moyen-Âge que nous avons assisté, un spectacle musical, vos deux partenaires dialoguant avec vous par l'entremise de leurs instruments et vous-même assumant la position de l'historien, conférencier, se muant lorsque nécessaire en acteur, voire même devenant l'un des personnages évoqués, en l'occurrence une femme, la comtesse Béatrice de Die. Au tout début de ce contretemps performé, théâtralisé et musical, la musique médiévale, dont d'emblée vous avez affirmé, prenant toutes les certitudes à revers, il n'y a pas de musique médiévale, il n'y a que des notes. Voilà qui pose d'emblée la question de la reconstruction, reconstruction portée par les musiciens tout autant que par vos propos. Première question, Patrick Boucheron, elle est plutôt personnelle et elle porte sur votre propre reconstruction pendant cette heure de spectacle. De quelle manière le conférencier que vous êtes habitué à œuvrer en solo derrière des micros, dans des colloques ou au Collège de France, l'orateur rompu à l'art de l'improvisation, a-t-il dû domestiquer sa parole pour la couler dans une forme spectaculaire? De quelle manière l'historien s'est-il métamorphosé en acteur, incarnant qui plus est un personnage de femme, je le disais, et introduisant de ce fait le théâtre à même le commentaire historique?
Merci pour cette question d'abord et son caractère personnel, effectivement, parce que j'ai l'impression qu'il y a une adresse peut-être un peu incertaine, c'est le défaut, dit-on, de ce spectacle, je ne sais pas si c'est un spectacle, de cette performance, on ne sait pas très bien à qui on s'adresse, ça reste encore d'une certaine manière à définir, mais peut-être parce que justement cette incertitude dans le genre, dans la narration, dans l'énonciation, elle est, comme vous l'avez bien remarqué, au cœur du dispositif. Alors si je veux répondre au plus près de ce que ça a été pour moi, je peux raconter comment j'ai écrit ce texte. D'abord, on a travaillé avec Isabelle et Bruno, ils m'ont envoyé de la musique sur des conversations davantage qu'un texte, et j'ai écrit en entendant leur musique. Mais j'ai écrit en entendant leur musique dans des conditions particulières, c'est que j'étais dans une grande solitude, puisque j'étais en résidence d'écriture, ce qui ne m'arrive jamais, à la Fondation des Treilles, un endroit magnifique et très isolé, dans les bois, justement, et je crois que le texte s'en ressent. Il s'agit d'animaux qui affluent, qui crient dans nos gorges, etc. Bon, voilà. Et tout cela, en fait, j'étais là j'étais en résidence d'écriture pour autre chose, pour un autre projet, sur un livre savant, sur Saint-Ambroise de Milan, et puis que je faisais toute la journée, parce que j'étais absolument seul, ce qui m'arrive jamais. Et puis, la nuit, je faisais ça. Et donc, je pense que, mais ça, je n'ai jamais vraiment dit, ni je ne me suis jamais formulé, que ce texte un petit peu nocturne, d'orveille, dis-je, en reprenant ce mot des troubadours qui définissent un état incertain entre la veille et le sommeil, un état soit effectivement d'endormissement, soit de retour à la conscience. Cet entre-deux, c'était le moment vraiment de grande fragilité où j'étais moi, quand j'écrivais. Et j'essayais d'écrire sur du Moyen-Âge, et un Moyen-Âge qui m'échappait absolument. Donc en fait, ce petit texte est finalement la partie nocturne d'un livre que j'ai publié entre-temps, qui s'appelle « La trace et l'aura », sur les vies posthumes d'Ambroise de Milan. Ça nous amène un peu loin, je suis désolé.
Non,
c'est au fond sur la présence du Moyen-Âge aujourd'hui chez nous.
C'est intéressant. J'aimerais revenir à une phrase introductive ou quasi-introductive de ce contretemps. Vous avez dit « l'histoire nous brise les os ». Si l'histoire nous brise les os, on se dit alors, nous, public, que le travail de l'historien n'est pas de réparer nos os, mais au contraire de prolonger ce processus de brisure. Et il me semble que c'est ce à quoi vous vous êtes employé pendant cette performance spectacle, briser nos certitudes, fissurer l'amas de nos pseudo-connaissances et sans doute de nos clichés, démonter, démanteler les apparences de la vérité pour révéler d'autres articulations à l'œuvre dans ce qui serait sans doute le squelette de notre civilisation. Je parlais de reconstruction, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi une entreprise de déconstruction ?
Oui, sans doute. Et d'ailleurs, la version qu'on a donnée à voir et à entendre de ce spectacle Contre-temps à Rennes est déjà une version épurée, détruite, ou enfin en tout cas défaite d'ornement qui, au départ, lorsqu'on l'a créé à la criée de Marseille, était plus visuel et avait à voir justement avec les squelettes. Il en reste une trace dans les images qui accompagnent la promotion du texte, où on est photographié derrière des transparences. Je décris au départ l'épaisseur du temps, sa transparence, les rémanences, parce qu'à ce moment-là, on était dans un dispositif où des images étaient projetées sur nous ou sur des voiles, des tulles comme ça, derrière lesquelles on jouait ou on parlait. Et c'était des images soit de manuscrits, alors on était littéralement dans la peau des bêtes, justement, soit de charniers, avec justement ces os qui étaient en transparence. Et tout cela a disparu, tout cela s'est dépouillé. La première mise en scène, en fait, de ce spectacle, où il y avait donc à la fois des projections, beaucoup plus de lumière, de transparence, et des danseuses derrière les tulles. Laurent Gachet, qui est notre metteur en scène, l'avait imaginé sur le modèle justement du dépouillement, c'est-à-dire qu'on avait différents panneaux comme ça, qui s'architecturaient d'abord en cathédrale, ensuite en chambre, ensuite en cour, en fonction effectivement des différentes ambiances, puisqu'on commence avec de la musique sacrée à Montserrat, et puis on est dans la musique, disons, de cour, et puis ensuite dans la musique de chambre, et jusqu'à un dépouillement total où la scène se libérait de ses 20 ornements, c'est-à-dire de ces panneaux qui ensuite étaient dégagés. Puis à la fin, je dis quelque chose comme tout est dégagé et libre. Peut-être qu'au fond, le texte est devenu, sinon obscur, du moins allusif ou implicite, parce qu'en fait, il commentait un dispositif scénique qu'on ne voit plus.
Voilà. Oui, parce que vous êtes allé à l'os, finalement. Par rapport à ce dispositif.
On est à l'os.
On parle d'os.
Voilà, on est à l'os. On est effectivement sur cette idée que l'histoire, on l'a dans la peau. Alors, c'est à la fois cette métaphore que moi, j'ai toujours trouvée assez puissante de ce que c'est qu'un manuscrit. Donc voilà, c'est ça le début. Il n'y a pas de musique médiévale, il y a des manuscrits qui nous viennent du Moyen-Âge, et parfois, sur ces manuscrits, il y a des notes, enfin, pas tout à fait des notes, etc., des insectes, bon, voilà. Et donc, c'est cette idée que il y a une part animale, il y a une part, effectivement, qui est irréductiblement vivante et vibrante dans cette musique, parce qu'au fond, on doit la reconstituer à partir de notes de qui sont, voilà, piquées dans des parchemins, c'est-à-dire des peaux de bêtes. Et comme j'écrivais ça dans un lieu très sauvage et solitaire, où il y avait des troupeaux, etc., je devais être influencé par ça. Et puis, si vous voulez qu'on aille jusqu'au bout de la psychanalyse, mais là, je me risque à des choses que je ne m'étais jamais formulées. C'était un moment où je pensais beaucoup à mon ami disparu, Mathieu Riboulet, avec lequel J'avais écrit « Prendre date », qu'on va donner justement à entendre à Rennes bientôt, qui est un texte qu'on avait écrit l'un et l'autre sur les attentats, les assassinats politiques plutôt du 7, 8 et 9 janvier 2015, un livre co-écrit dont je suis aujourd'hui le survivant. Et c'est toute, d'une certaine manière, la philosophie de l'histoire de Mathieu Riboulet que, au fond, de nous faire ressentir, de nous faire éprouver le fait que l'histoire nous brise les os. Ça, c'est peut-être même une citation. Enfin, l'histoire, on l'a sur le dos. L'histoire, on la traîne. L'histoire, elle nous a traversé, elle nous a transpercé. Et on la transporte, et on l'a avec nous. Et dans ce moment où j'écrivais ça, je m'étais décidé à lire ce livre que je savais devoir lire, mais que pour ces raisons-là, dont je retardais la lecture parce qu'il est paru pendant que mourait Mathieu Riboulet, alors qu'il parlait aussi de ça, c'est Le Lambeau de Philippe Lançon. Tout ça se retrouve.
On se rencontre un 13 novembre 2015.
Oui.
Effectivement, il y a des connexions qui opèrent. Cette notion de brisure qui suscite du vide, qui crée de la béance, qui permet de la vacance, m'a semblé être une des affirmations de contre-ton. Elle était incarnée par cette phrase que vous venez de rappeler, « Il n'y a pas de musique médiévale, il n'y a que des notes donc éparses, dispersées, dissociées. » Et je me suis dit, il ne faut donc pas avoir peur de ces vides, mais peut-être voir en eux, bien au contraire, des opportunités. Nous revoilà encore dans l'idée de la construction. Est-ce qu'en décryptant l'histoire médiévale à l'aune de ces trous, de ces vides, de ces oublis et de sa discontinuité, vous nous dites quelque chose de l'art, et plus précisément des conditions de l'avènement de l'art. Je parle de l'art parce qu'il est question du chant, et beaucoup dans le contre-temps.
Oui, peut-être effectivement cette idée que moi, si je vais au Moyen-Âge, ce n'est pas pour des raisons, seulement archéologique, ou c'est pas pour des raisons de divertissement, ou c'est pas pour des raisons de consolation. J'y cherche pas, là encore, dans le texte, il y a cette idée que c'est un monde englouti, de toute façon, c'est un monde qui a disparu. Et donc, si on y va, c'est parce que, le plus souvent, c'est parce qu'on y recherche quelque chose, une spiritualité. Alors, ça, c'est l'usage le plus courant de la musique médiévale. Ce sont quand même des chants sacrés. Enfin, pas tout. On montre aussi dans le spectacle qu'il y a des chants profanes, mais au départ, c'est des chants sacrés. Ou un refuge par rapport, à une méchanceté des temps qu'on voudrait fuir. Bon. Et moi, j'ai l'impression que non, j'y cherche autre chose. J'y cherche quelque chose qui a à voir non seulement avec notre modernité, mais notre hyper-modernité. Voilà. Cette hyper-modernité, elle a à voir avec la création. Elle a à voir avec la création. Ce qui est en jeu dans ce spectacle, c'est des noms de musiciens ou des manuscrits qui n'ont pas de nom, qui sont anonymes, donc, et la difficulté de nommer soit des courants musicaux, qu'est-ce que c'est qu'un chant grégorien, qu'est-ce que c'est que l'Ars Nova, ou des poètes, est-ce que Béatrice de Die, que vous avez cité, a bien existé, et même des gens dont on ne doute pas de l'existence parce que leur nom se trouve imprimé sur le dos des livres, Ruteboeuf, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un nom? En bas du manuscrit, on n'en sait pas beaucoup plus. Bon, voilà. Donc il y a des manques, et ces manques, pour moi, ils ont à voir avec la création, parce que d'abord, pour deux raisons. La première, c'est que l'atelier d'écriture du Moyen-Âge, ou l'atelier de création du Moyen-Âge, c'est ça, c'est-à-dire une écriture continuée qui ne se laisse pas embarrasser ou intimider par la litanie des patronymes. Alors on est avant ce que Michel Foucault appelle la fonction auteur, c'est-à-dire l'assignation de chaque énoncé à un patronyme, c'est-à-dire cette loi du nom propre qui fait qu'on ne reçoit pas un texte ou d'une manière générale une œuvre de l'esprit si elle n'est signée. Mais sauf que lorsqu'il écrit la fonction auteur, Michel Foucault, dans les années 70, il rêve d'une certaine manière une critique de l'humanisme, mais il ne sait pas que cette fonction auteur, c'est bien une parenthèse, et elle s'est ouverte et elle s'est refermée. Et aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus que lui habitués à voir circuler de manière libre et désordonnée des énoncés sans nom propre. Et Internet est ce lieu du communisme littéraire. Bernard Cerchiglini, qui a travaillé sur, dans un livre qui s'appelle « Éloge de la variance », sur ce qu'il appelle le communisme littéraire du Moyen-Âge, c'est-à-dire cette écriture continuée, décrit bien ça. Les troubadours ajoutaient, augmentaient le champ du monde. Les romanciers du cycle arthurien reprenaient là où les autres avaient laissé et d'une certaine manière ne cherchaient pas à laisser un nom, mais à poursuivre une œuvre. Et c'est quelque chose qui nous est devenu incompréhensible avec la fonction auteur et qui nous redevient compréhensible aujourd'hui dans les nouvelles manières de créer. Et la musique en est évidemment un laboratoire, puisque cette manière de sampler le passé, alors on peut effectivement avoir des références en musique savantes, mais c'est la même chose aussi en musique dite populaire, avec le rap, avec toutes les musiques urbaines, etc. Et c'est là où on se rencontre avec Bruno Alari, Isabelle Courroy et la compagnie Rassegna d'une manière générale, c'est que à Marseille, la compagnie Rassegna fait ça, c'est-à-dire que prend, décloisonne la musique savante, ce qu'on appelle la musique savante et ce qu'on appelle la musique populaire ou folklorique, c'est-à-dire que lorsque Bruno Alari prend le codex Landi, qui est effectivement un manuscrit italien du XIVe siècle, de l'Ars Nova, et puis en produit une interprétation, moderne, savante, en retournant des boucles par ordinateur, enfin, pourrait mieux vous expliquer que moi comment il a fait, mais c'est savant. C'est-à-dire que là, on est plus du côté, au fond, de la musique contemporaine, d'une recherche, type IRCAM, que du spectacle de troubadour du mois d'août. Hein. Donc on est là dans une conception très savante qui est liée à la mathématisation de la matière musicale comme on la pratiquait au Moyen-Âge, mais quand inversement tout ce travail savant est restitué avec une guitare électrique ou avec Isabelle et sa flûte cavale, qui est une flûte oblique, qui a un son comme ça, très épais, très charnel, très chargé, qui a un son animal, de berger des Balkans, on fait quelque chose, on déplace, on déporte la musique savante vers la musique populaire. Donc pour ces deux raisons-là, qui ont à voir avec effectivement le rapport qu'on a d'appropriation à la chose créée, premièrement, et deuxièmement, le rapport de hiérarchisation de la création en fonction de catégories, raisonner par manque, raisonner par lacune, etc., c'est une manière de dire quelque chose de la création contemporaine.
Il me semble que ça pose aussi la question du récit, mais je voudrais qu'on y arrive un peu plus tard. Parce qu'il y a eu quand même, pendant ce contretemps, un moment, pour moi en tout cas, de très grands troubles qui étaient que je me suis dit à un moment, l'histoire nous ment. L'histoire est sans doute lacunaire, c'est son droit, et peut-être c'est aussi son choix. L'histoire peut avoir une tendance à remplir par des trop-pleins des vides qui existent. Elle peut aussi renvoyer quasi définitivement à l'invisibilité des gens qui ont existé. Ce n'est pas par hasard que vous avez fait remonter Guillaume IX d'Aquitaine, puis Béatrice de Die, en disant, voilà, d'un côté, il y a eu Rudebeuf qui est resté, et peut-être ça n'est qu'un nom, mais en tout cas, il est resté, et de l'autre, Louise Labbé, qui, elle, n'était pas un nom, mais qui est resté aussi. Donc, vous avez suggéré que peut-être l'histoire nous trompait. Ce qui, sans doute, est au fond quelque chose d'humain. Mais moi, ça m'a posé le trouble suivant, qui est celui-ci, si l'histoire nous ment, si nous vivons sur des fondations qui sont erronées, quelles sont nos fondations aujourd'hui à nous, intellectuelles, et quelle est leur validité ?
L'histoire, non, l'histoire ne nous ment pas. Ce qui peut mentir, c'est notre prétention à en rendre compte sans contretemps, justement. C'est-à-dire de manière lisse, continue, homogène et avec un rapport toujours stabilisé entre les mots et les choses. Mmh. Donc, parce que je ne sais pas qui était Rudebeuf. Je ne sais même pas si ce que l'on prête à Rudebeuf a été écrit par celui qui portait ce nom ou quelqu'un d'autre. Mais ce que je sais, c'est que ces vers ont été écrits et ont été entendus et à cette époque-là. Et moi, en tant qu'historien, ça me suffit. C'est-à-dire que ce qui existe, c'est le champ du monde. Et ça, ça ne nous trompe pas. C'est qu'au fond, on doit élargir notre perception. On doit, et ça, je n'y vois pas de... j'entends ce que vous dites.
Ça jette un doute.
Ça jette un doute. Mais ça jette un doute sur quoi ? Ça jette un doute sur quoi ?
Ça jette un doute sur peut-être la possibilité d'existence ou pas de Rudebeuf, et ça jette surtout un doute sur le fait qu'il y a sans doute eu des protagonistes de l'époque médiévale, mais on peut remonter jusqu'au temps moderne, dont nous n'aurions pas été informés, et qui sans doute sont fondamentaux pour comprendre aujourd'hui les données de notre vie.
Oui, alors voilà. Il y a déjà une chose, c'est que c'est l'extrême, on va dire, sélectivité mais sélectivité sur quels critères ? Peut-être en partie hasardeux, de ce qui nous reste. Voilà. C'est pour ça que c'est toujours important de dire, le Moyen-Âge est une période qui a disparu et dont il ne reste que quelques vestiges. Et ces vestiges, on veut croire que ce qui reste est ce qui était le plus important. On a des raisons de le croire, parce que si c'était important, on a pu, par exemple, le recopier. On parle d'un temps d'avant l'imprimerie, donc on parle effectivement d'un temps où la tradition manuscrite se paie aussi de cette peine du copiste. Donc si on a beaucoup copié un texte, c'est sans doute qu'on y tenait davantage. Et si on l'a beaucoup copié, il a eu moins de chances de disparaître totalement. C'est sur cette croyance statistique qu'on se fonde pour dire qu'il y a une littérature latine, par exemple. Et que ce qui nous reste de la littérature latine, c'est-à-dire ce qui a été recopié au Moyen-Âge, est ce qui est le plus important. Mais ce n'est pas sûr. La plupart des... il y a un grand livre qui s'appelle « L'histoire critique de la littérature latine », sous la direction de Pierre Laurence, qui montre que, d'une certaine manière, ce qui est resté de la littérature latine et ce qui a été recopié au Moyen-Âge. Et pourquoi ça a été recopié au Moyen-Âge ? Parce qu'au Moyen-Âge, dans ces monastères, justement, les moines y trouvaient un intérêt. Alors, on n'a pas de doute sur les grandes masses. C'est-à-dire qu'effectivement, Lucrèce est Lucrèce. Mais sur des poètes mineurs dont on ne connaît que le nom, dont on peut reconstituer que par fragments lacunaires l'œuvre, on peut avoir des doutes. Et ces doutes, moi, ne m'angoissent pas tant que ça. Voilà, parce qu'au fond...
C'est plus de l'angoisse que du doute, effectivement.
Oui, ce qui reste, reste. Voilà. Et même si ça reste pour des raisons qu'on ne peut pas... toujours expliquer, Voilà, c'est là. Alors après, quand on est vraiment historien des textes, mais ça, c'est pas l'objet du spectacle, on se dit que, au fond, la conservation et la transmission ne sont pas accidentelles et que c'est pas seulement une aubaine pour l'histoire, mais c'est en soi un objet d'histoire. Et puis, il faut pas céder non plus à l'hypercriticisme. C'est-à-dire que ce que je mets en doute, par exemple, sur Ruteboeuf, c'est en fait l'idée qu'il ait pu écrire des poèmes de l'infortune et que cet ensemble-là n'existe jamais du point de vue, on va dire, codicologique, c'est-à-dire dans les manuscrits, le texte n'étant pas stabilisé au Moyen-Âge. Mais il y a bien un moment où il faut cesser de douter de tout. Par exemple, je pense que Louise Labbé, son historicité est beaucoup plus assurée, et si on ne veut pas l'admettre, c'est aussi parce qu'on peine à admettre qu'une si grande œuvre poétique puisse être attribuée à une femme. Et je dirais que c'est presque la même chose pour Shakespeare, pour des raisons qui ne sont pas liées au biais de genre, mais au biais de la domination sociale. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, pour une certaine critique littéraire, que un homme comme Shakespeare, dont on sait qu'il était fils d'artisan et que c'était pas un homme de cour, ait écrit ça, ça ne passe pas. C'est pas possible. Voilà. Donc c'est ça relance en permanence la polémique et le doute.
Qu'est-ce qui se passe au XVe siècle quand le pape arrive et interdit la musique médiévale en disant il brise les mélodies à coups de notes courtes, là où précédemment on entendait, vous la citez également, nous n'écouterons les troubadours que s'ils chantent une chanson nouvelle.
Oui.
Quelle est cette régression qui a lieu tout à coup, ou ce réflexe de peur?
De peur, de régression. Alors là, on est au XIVe siècle, en fait. On est sous le pontificat de Jean XXII, dans les années 1320. Et il y a, c'est mon collègue et ami Étienne Anheim qui l'a montré, une réaction, oui, vous avez raison, une réaction, mais une réaction savante, face à une amplification de la complexité musicale qu'on appelait l'Ars Nova. La musique, à ce moment-là, a, pour le dire très vite, quitté les chapelles pour accéder à la cour. Donc c'est une musique de cour, c'est une musique savante parce que c'est une musique politique, et c'est une musique politique parce que c'est une musique princière. Et donc qui obscurcit le rapport entre la note et le signe, et qui rend moins intelligible concrètement les paroles, puisque c'est quand même beaucoup une musique vocale, tout ça. Une des étrangetés du spectacle, c'est que cela donne des versions instrumentales à une musique qui était essentiellement vocale. Au départ, la Vierge resplendissante de Montserrat, c'est un chœur. Et là, on en donne une version instrumentale. Mais n'oublions jamais que ce sont des pièces qui sont des pièces faites pour être chantées, et dans des conditions qui sont essentiellement des conditions, disons, d'office liturgique. Et donc, l'Ars Nova s'autonomise un peu de cette fonction liturgique dans un cadre politique, et le pape s'en alarme et s'en indigne. Alors, effectivement, il a le mauvais rôle là-dedans, et c'est effectivement une peur face à l'inintelligibilité. On observera la même chose, par exemple, dans les grandes querelles sur l'opéra, toute proportion gardée au XVIIIe siècle. Mmh. Voilà, si la voix des castrats nous transporte d'émotions, nous trouble, c'est aussi un trouble dans le genre d'ailleurs, mais rend la perception du livret, des paroles, difficile, plus difficile. Alors là, c'est juste une question artistique. Pour l'Ars Nova, c'était une question liturgique. Et donc, Jean XXII s'en alarme et s'en indigne. Et c'est un vrai... Alors, évidemment, pour nous, on a un pape qui lutte contre l'Ars Nova, donc contre un art nouveau. Donc, on va le considérer comme réactionnaire. Et il l'est, assurément. Et il l'est encore plus qu'on le croit, parce que l'Ars Nova est lié aussi à une forme de modernité philosophique qui est le nominalisme de Guillaume d'Ockham, c'est-à-dire d'une philosophie du signe. C'est-à-dire, effectivement, les notes sont des signes qui renvoient à des choses, mais c'est un système, effectivement, de symbolique. Donc, l'occamisme, c'est-à-dire la philosophie de Guillaume d'Ockham, le nominalisme, est très important aujourd'hui, et aujourd'hui encore, dans la philosophie du langage. On se rend compte que, d'une certaine manière, c'est une forme de modernité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce rappel à l'ordre du pape, si je veux une minute, prendre sa défense, du moins, prendre son point de vue, son point de vue, c'est que c'est une opposition à l'idée de, pour prendre un anachronisme, l'art pour l'art. C'est-à-dire que les compositeurs n'écrivent pas de la musique pour se faire plaisir, ou pour faire plaisir au prince qu'ils flattent. Que la musique participe de l'harmonie des sphères. Et que si elle devient inintelligible et incompréhensible, alors on désorganise le monde. Et donc, oui, c'est une peur, mais c'est une peur réelle. Et donc, qui, d'une certaine manière, alors il a le rôle du réactionnaire, mais d'une certaine manière, ce réactionnaire, il confie à la création artistique un rôle exorbitant, qui est de faire tenir le monde. C'est plus sérieux que de divertir les princes. Ça fait tenir le monde. Et donc, si, effectivement, on considère que les mots ne renvoient plus aux choses, mais les mots ne sont que des mots, nominalisme, si on est dans un système de signes qui ne renvoie plus qu'à lui-même, alors où est le monde ? Et même, j'ajoute, où est le monde social ? Nous savons par ailleurs que cette Ars Nova était destinée à accuser l'écart entre une musique savante et une musique populaire. Et là, on rejoint au fond des réflexions, je parlais de l'IRCAM, je faisais allusion à Boulez, vous voyez, sur une forme d'hermétisme qui a quand même des effets sociaux.
Est-ce qu'on peut relier ce que vous venez de dire, c'est-à-dire au fond l'intention très grave de Jean XXII, à cette question du récit? Moi, j'ai eu l'impression que l'idée du récit, la notion de récit, était vraiment mise en jeu dans Contre-temps. Récit déjà porté par vous, qui venait se frotter au récit porté par la musique, et inversement, récit que trame l'histoire, avec ce qu'elle peut comporter de lacunes, le mot est employé à un moment donné dans la performance, récit qui est comme un continuum, si je vous entends bien, à l'époque médiévale, des troubadours qui se passent le relais finalement et qui n'arrêtent pas de tramer ce récit. Il se trouve qu'on vit aujourd'hui une époque qui est en demande de récits. Récit national, récit communautaire, récit commun, enfin on entend beaucoup cette demande. Et je me suis demandé si, au fond, réclamer du récit, c'est ne pas être un peu réactionnaire, c'est-à-dire vouloir faire coaguler ensemble des choses qui pourraient ne pas être agrégées les unes aux autres. Ce n'est pas quelque chose de profondément conservateur comme élan et comme impulsion.
C'est une question, c'est une vraie question, c'est celle qui m'anime. C'est sur cette question aussi peut-être que se fit la rencontre avec Bruno Allary et la compagnie Rassegna d'abord, Isabelle Courroy ensuite, Laurent Gachet après. Cette Au départ, Bruno m'avait présenté la compagnie Rassegna, m'avait fait écouter ce qu'il faisait, Il suol non muove. J'avais d'ailleurs écrit un petit texte pour eux. Et là aussi, il y avait un récit. C'est une compagnie marseillaise qui hybride la musique andalouse, arabe, occitane, à la fois aussi savante et folklorique, et qui fait une musique, une fusion entre la musique, des différentes musiques méditerranéennes. C'est un récit, c'est notre récit. Ce n'est pas le récit national, c'est un contre-récit. Mais ce contre-récit a encore un récit. Et d'une certaine manière, ils sont venus me voir quand ils se mettaient eux-mêmes à déjouer ce contre-récit qui était encore un récit. Et ce qui était intéressant dans « Il sol non muove », c'est qu'il y avait effectivement leur répertoire, mais ils commençaient à s'hybrider avec d'autres choses qu'amenait Isabelle Courrois, c'est-à-dire ce répertoire venu, je l'ai dit, des Balkans, d'Anatolie, de Bulgarie, etc. Et puis, ils avaient même été chercher de la musique anglaise du XVIe siècle. Et là, on était loin de la Méditerranée. Ce que je veux dire par là, c'est que... bien sûr que il y a là, on va dire, une intention, que cette intention, elle est au fond, au départ, elle était assez clairement exprimée, énoncée comme, on va dire, une critique des identités. Il en reste quelque chose dans le spectacle. À un moment, je parle de l'enracinement, de l'arbre inverse, etc.
J'allais y venir. Oui.
Voilà. Et donc, c'est assez facile, j'allais dire presque confortable, de faire une critique des identités avec de la musique. Parce que la musique, bah oui, la musique, ça se transporte. La musique, ça s'échange. La musique, ça traverse le monde. Et voilà, c'est d'une certaine manière... l'art des circulations. Mais en faisant le grand, en racontant ainsi le métissage, on fait un autre grand récit. On fait, d'une certaine manière, ce que j'ai appelé un contre-récit, qui reste un récit. Alors, j'ai rien contre, bien sûr. Je pense même que politiquement, il serait inconséquent de lâcher les forces, disons, de mobilisation émotionnelle, d'entraînement de l'art de raconter, et qu'il serait effectivement dangereux et inconséquent de les laisser aux forces réactionnaires. Donc, je dis souvent qu'à des récits mensongers, on doit pouvoir opposer d'autres récits également également entraînant, mais c'est tactique, parce que fondamentalement, ma préférence, et plus que ma préférence, ma conviction d'historien va vers un art des discontinuités. Donc dès qu'effectivement on met en narration, d'une certaine manière, on fait une concession à une vision ordonnée du monde social.
Sauf que je pense que vous parlez de tactique, vous avez suffisamment de talent et de malignité pour que, implicitement, nous percevions, nous, cette réfutation de ce qui est en train de se faire. Et on se met à élaborer son propre récit à soi, porté par la musique et par vos mots, et à connecter entre eux des choses. Donc il est question à un moment donné de la généalogie comme quête de la parenté en retournant en arrière. Puis après, vous parlez de la tradition, qui serait l'alliance du grand âge et de la jeunesse, comme un trait d'union, finalement, entre les trous, justement, pour qu'il n'y ait pas de trous. Et puis vous arrivez à la fin de Contretemps, a effectivement cette idée de l'arbre inversé et au Moyen-Âge de l'homme qui avait ses racines dans le ciel. Vous dites l'enracinement est une déchéance. Tout chante le salut dans la dissemblance. Pourquoi faut-il se masser en des hauteurs craintives ? Vous passez par Babel, qui a été détruite par Dieu, non pour châtier l'homme, mais au contraire pour le sauver, et vous arrivez à l'Europe. Et je me suis dit ça, ce contretemps, non seulement il était très critique, moi j'ai pensé plutôt sur nos instincts grégaires, je me suis aussi dit qu'il était très politique, en ce sens où il sollicite, et c'est une injonction envers l'individu, en lieu et place de la foule, ou de la masse, voire même du peuple.
Bah, je vous remercie beaucoup. C'est, vous dites bien mieux que je ne saurais le faire. Peut-être, sinon l'intention, mais du moins peut-être les conditions de la réception de ce que j'ai tenté de faire. Il y a là plusieurs choses qui s'entrechoquent. Peut-être que ça se bouscule à la fin, peut-être au risque de l'inintelligibilité. Je ne sais pas, là encore... C'est un spectacle qui mêle la musique et le texte. Et au départ, la musique et le texte étaient très séparés. Alors on nous a reproché, en fait, une sorte de cadence, comme ça, trop étanche. Et alors là, maintenant, on dialogue plus. Alors parfois, on nous dit on aimerait plus entendre tantôt de la musique, tantôt des paroles. Ce n'est pas pour m'autocritiquer, mais c'est parce que j'aime bien cette idée que le moment amène sa propre réfutation. Je pense qu'on est quand même dans l'inextricable, dans l'indécidable. En tout cas, à la fin, ça se bouscule. Voilà, ça se précipite, les thèmes arrivent et s'entrechoquent un peu. Il y a ce thème, effectivement, de l'arbre généalogique. Ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et puis derrière, il y a un peu des références. Donc ça, c'est le livre de Christiane Clapiche-Joubert qui s'appelle « L'arbre des ancêtres » et qui décrit d'ailleurs très concrètement dans les manuscrits la manière dont se retourne. C'est-à-dire que lorsque vous demandez effectivement à un enfant de faire son arbre généalogique, il se met dans les racines et il va effectivement mettre ses ancêtres comme ça au ciel. Mais on a fait l'inverse. Mmh. Voilà. Et donc cette différence-là, elle crée... au fond, la question de savoir qu'est-ce qu'on veut enraciner, qu'est-ce qu'on met au sol, qu'est-ce qu'on met au sol, et doit-on choisir d'ailleurs entre c'est ce que Mireille Delmas Marty, j'y pense parce que j'ai fait une émission de radio avec elle, qui est une juriste, appelle les forces imaginantes du droit, reprenant L'eau et les rêves de Gaston Bachelard. Il y a une force d'enracinement, une force de surgissement, et que c'est ce qu'il appelle les forces imaginantes de l'esprit, et c'est comme ça qu'on crée. On va se concentrer, et puis on va au contraire jaillir vers la nouveauté. On a sans doute besoin des deux, et je ne veux pas jouer la tige contre la racine, même si je pense là à toute une nouvelle philosophie, celle d'Emmanuel Ecoccia dans La vie des plantes, qui décrit ce que c'est que, au fond, une philosophie du buissonnement, qui est une philosophie du mélange. Bon, j'aime pas beaucoup la racine, vous imaginez bien. Mais d'où l'idée de parce qu'on n'est pas des arbres. Parce que, justement, c'est ça l'idée, on n'est pas des arbres. C'est-à-dire que déraciné, on vit. Peut-être plus difficilement, mais on ne meurt pas. Voilà. En cela, voilà, nous sommes mobiles, nous ne sommes pas des végétaux. Voilà. Et donc, c'est quand même fondamental à rappeler, et même d'ailleurs, Simone Veil le rappelle dans ce qu'elle appelle l'enracinement, qu'elle défend d'ailleurs, mais comme un droit humain, mais en rappelant que, par ailleurs, on peut vivre déraciné. Donc, cette idée, elle est liée effectivement à cette angoisse. Moi, je trouve que pour moi, c'est une grande angoisse, l'angoisse de la grégarité. Et donc, à la fin, le spectacle se termine par la dispersion. C'est-à-dire, il faudra donner l'ordre de dispersion. La référence derrière, c'est Maurice Blanchot, la communauté inavouable. C'est-à-dire le moment où l'idée fondamentalement que le vrai moment politique, c'est le moment de la dispersion. Ce qui est le moment dangereux, d'ailleurs, non seulement dans une manifestation, mais dans un moment politique, quand on se disperse, Chacun se sépare, chacun va, au fond, d'une certaine manière, garder un souvenir, une interprétation, un récit de ce qu'on a vécu ensemble. Et là, il ne faut pas se louper. Parce que ça peut. Voilà, ça peut. Cette dispersion peut être une séparation. Et pourtant, c'est la seule manière de survivre, c'est-à-dire d'être, de se rendre inexpugnable. Ça, c'est là l'interprétation juive de Babel. C'est-à-dire que Dieu n'a pas dispersé les hommes pour les châtier de leur arrogance, mais pour les sauver, parce que spontanément, face au danger, ils s'étaient amassés dans un lieu élevé, mais enfin, ils s'étaient massés, donc ils s'étaient mis en danger, là encore. C'est quelque chose de, voilà, de vieux comme la subversion. Voilà. On se rend vulnérable en s'assemblant, fort mais vulnérable. Et là, je parle de Dante, parce que Dante, d'une certaine manière, voilà, interprète cette glose juive de la dispersion post-babélique. C'est Eri de Luca qui est le grand écrivain que l'on sait, mais aussi un excellent commentateur de la Bible, qui le rappelle dans un court texte qui s'appelle Noyau d'olive. Et si on veut aller jusqu'au bout, et jusqu'au bout aussi d'ailleurs de cette histoire de dispersion et de circulation, Dante récupère cette glose juive de la Genèse, mais quand il dit ça, il est aussi averroïste, parce que voilà, de la philosophie d'Averroès, Ibn Rushd, de ce grand philosophe de langue arabe. Et le dernier mot d'Averroès, c'est ça, c'est que au fond, tant qu'il reste un philosophe sur la terre, l'humanité est sauvée, parce que ceux qui pensent, c'est le contraire du cogito, ce n'est pas moi qui pense, c'est l'humanité qui pense. Le siège de la pensée, c'est l'humanité tout entière. Et donc, pour que l'humanité soit inexpugnable, il suffit que quelqu'un, quelque part, soit philosophe. Ce qui est une pensée d'une puissance consolatrice incroyable. Voilà. Et qui est, d'ailleurs, quand on y réfléchit bien, assez rarement démentie par l'expérience historique. Parce que vous parliez de dispersion et de destruction et d'oubli. Mais c'est rare, les expériences historiques d'un oubli total, d'un effacement réussi, d'une disparition absolue. Il y a toujours, Averroès dit, un philosophe dans le monde. Prenons d'autres exemples. Il y a toujours quelqu'un dans le ghetto de Varsovie qui récupère ce qui reste, qui enterre. Des archives pour plus tard, ou pour le dire comme Walter Benjamin, rien n'est jamais perdu pour l'histoire. Et ça, c'est peut-être le dernier mot. Voilà, je suis désolé, je mets beaucoup de notes de bas de page.
Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien. J'avais une dernière question, mais je ne vais pas la poser aujourd'hui. Je vous la poserai la prochaine fois.
D'accord.
Patrick Boucheron, on se retrouvera donc le 13 décembre avec vous.
Merci, merci beaucoup.
Merci.